I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tout le monde, ma foi, ne pensait pas en arriver là après des années de fidélité depuis la prime enfance, mais n'en peut littéralement plus des adaptations de comics au cinéma. Certes, de temps en temps, une bonne surprise, un Logan au hasard nous fait nous dire que peut-être tout n'est pas perdu, mais il n'empêche, c'est désormais avec appréhension et lassitude que nous traînons régulièrement les pattes jusqu'aux salles de cinéma pour subir les errements visuels d'une bande de yes-men qui prennent un malin plaisir à piétiner tout ce qu'il y avait de chouette chez les super-héros. Tout ça pour dire qu'on va causer, vous m'avez vu venir, de Wonder Woman et qu'on va le faire avec les trois Amazones de la critique réunies ici à Antenne Paris, Daniel Andriev, salut Daniel.
Bonjour.
Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et c'est nos ciné épisode 89 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Wonder Woman, vous la connaissez, vous l'avez même, je vais réussir à le dire, déjà vu au cinéma récemment sous les traits de Gal Gadot dans l'abominable et incompréhensible Batman vs Superman. Elle rempile ici mais prend les rênes de l'action qui nous emmène sur les pas de ses débuts de super-héroïne et nous raconte comment, en suivant un pilote qui par hasard s'est écrasé sur l'île de Themyscira, Diana, comme elle s'appelle encore, princesse des Amazones, va se retrouver plongée dans le monde des hommes en plein pendant la guerre.
Possibly fight in this.
Fight? We use our principles. Although, I am not opposed to engaging in a bit of fisticuffs should the occasion arise.
La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Derrière la caméra, c'est Patty Jenkins qui avait signé Monster en 2003, qui avait valu à Charlize Theron une tripotée de prix, dont l'Oscar de la meilleure actrice. Et au casting de Wonder Woman, on retrouve outre Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright ou encore David Tully. Ce Wonder Woman, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Je vais donner la parole à Daniel, qui est le plus tendre d'entre vous avec le film, je crois.
Surtout le plus intéressé par Wonder Woman.
Le plus intéressé par Wonder Woman, tu penses? Tu ne sais pas, peut-être que Julien Stéphane avait des posters
vraiment,
de Wonder Woman.
C'est un truc très important
chambre.
Pour moi, Wonder Woman.
C'est
vraiment,
vrai
ouais. La série, c'était.
Tu veux qu'on en parle.
La série était. Ouais, c'est vraiment mes premiers souvenirs de super-héros à la télé. J'étais complètement amoureux de Linda Carter. Donc il y a vraiment, j'ai vraiment un lien particulier avec ce personnage. Ça explique tout sur moi. Et écoute, comme tu le précisais si justement, Batman vs Superman était tellement abominable. Et alors, ça va nous donner un peu l'idée de nos ambitions ciné. Était tellement abominable. Je pense que c'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu de ma vie, en fait. Batman vs Superman. Plus j'y repense et plus il me fait gerber. Et le fait que DC sorte un film qui ne soit ni abject, ni atroce.
Le téléphone de Julien Dupuis.
Ouais, j'entends ça. ça dit aussi beaucoup de choses.
Ça dit aussi beaucoup de choses, cette sonnerie. On en parlera dans une autre émission.
Le fait que ça soit un film ni atroce, ni vomitif, est déjà de l'ordre de la petite réussite. C'est-à-dire, DC était quand même... Après, on pourra faire l'équilibre, genre, qu'est-ce qui est mieux entre Marvel et DC. Mais pour moi, le fait que ça soit un film regardable et à peu près sans honte, c'est-à-dire Man of Steel, tous ces trucs horribles que DC nous sert, des trucs irregardables de bouillie, dont Wonder Woman n'est pas exemple. Je trouve que vraiment le dernier tiers, on sent qu'il se retombe dans le formatage DC, c'est-à-dire la colométrie noire, ça se déroule dans la nuit, on ne sait pas où ça se déroule, ça devient un peu sous le calibre, ça devient vraiment pas très intéressant, et je pense que c'est un film qui va perdre un peu sur la longueur. Mais j'ai quand même, il y a des choses qui m'ont un peu touché. Je trouvais que Gal Gadot, justement, elle le jouait assez efficacement. Et en fait, ce qui fonctionne dans le film, c'est un peu cet humour un peu décalé. Alors, ce que j'appellerais l'humour visiteur. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en dehors d'un milieu et qui découvre un autre milieu. Et je trouvais que les scènes en Angleterre étaient assez intelligentes.
Est-ce que t'es en train de dire que les visiteurs, c'est intelligent, du coup?
Un humour type les visiteurs, tu vois, c'est une catégorie. C'est-à-dire
c'est une classe de film à part, tu vois.
Quelqu'un qui est en dehors de son milieu et qui découvre quelque chose.
J'ai appelé l'humour un indien dans la ville, non?
Ouais. Le truc, c'est qu'ils auraient.
Parce qu'on est sur des grosses refs.
Mais c'est, ceci dit, c'est une structure scénaristique. Oui. C'est le fish out of the water.
Fish out of water, ouais.
Et j'avais très peur en fait pour ce film parce que je pensais, j'y avais vraiment aucun espoir presque. Et en fait, ils ont parce que Wonder Man peut très vite devenir ridicule. Et ils sont allés sous le prisme de Xena en fait. C'est littéralement Xena la guerrière. Et ils ont pas pris de risque. Ils ont pris les dernières itérations. Ils sont inspirés beaucoup du run de George Perez en fait pour faire cette Wonder Woman. C'est vraiment ils ont pas pris de risque. Et c'est peut-être pour ça que je trouve que le film est regardable. Et ce que j'entends par regardable, c'est-à-dire que tu peux le montrer à un gamin celui-là. C'est-à-dire tu peux t'adresser à un enfant. Il y a un détail près. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé la Seconde Guerre mondiale par la Première Guerre mondiale. Et c'est un changement narratif très très intéressant. C'est-à-dire que les méchants sont traités quand même comme des nazis.
C'est-à-dire oui, c'est quand même des nazis.
Ils ont des accents. Ils font des expériences secrètes sur des pauvres.
C'est des gens
ça reste des Allemands.
Ça reste des Allemands.
Ça reste des Allemands. Et il y a d'ailleurs une scène au tout début du film qui me dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé dans le script? C'est le moment où Steve débarque sur Femiskira. Et il y a les Allemands qui le poursuivent et il dit c'est les méchants.
Oui.
Et dans la carte de 14-18, c'est des choses qui ne sont pas si évidentes en fait. Et c'est tout le travail un peu parfois laborieux de ce film, c'est d'essayer de montrer que en fait c'est des méchants mais pas des méchants. Et donc il y a cette scène qui a été moultement applaudie lors de la projection, c'est-à-dire où Wonder Woman va traverser le no man's land, le champ de bataille. Mm. Et alors elle le traverse courageusement. Les gens, ils étaient vraiment ils étaient à fond dedans. Et en même temps, tu te dis que tous ces pauvres mecs de l'autre face, ils sont en train de se faire dégommer. Et donc voilà, est-ce que tu peux emmener ta petite je te regarde
oui,
toi en particulier, est-ce que tu peux emmener ta petite fille?
Voilà, 3 ans et demi, donc pas forcément en fait.
Tout en lui expliquant aussi que la guerre ce n'est pas bien. Voilà. Il y a des choses très très bizarres dans ce script. Tu sens la réécriture
c'est pas bien sauf quand c'est Wonder Woman qui l'a fait quoi.
Et face à des Allemands. Tu es d'accord que les Allemands ça reste quand même les meilleurs méchants.
Ouais. Ouais oui. Enfin bon. Moi le problème que j'ai avec le film c'est qu'il y a déjà un problème par rapport à la façon dont on le vend aujourd'hui quoi. C'est-à-dire que en gros on t'explique que c'est très très important politiquement que ce film cartonne parce que tu comprends c'est un film de super-héros avec une femme réalisé par une femme. Et c'est très important que, en gros, si tu veux, on change.
On vote d'ailleurs.
C'est très important qu'on change les mentalités. Le souci là-dedans, c'est que ça, pour le coup, bon, c'est pas un souci, mais c'est réussi, on va dire, entre guillemets. Mais pour moi, la qualité, en fait, elle est mise au deuxième plan, en fait, à ce moment-là. Parce que, personnellement, moi, je suis pas d'accord du tout avec Daniel. Je trouve ça horrible. Et horrible sur ce point de vue-là, en fait, sur le point de vue, entre guillemets, féministe du film, où tous les clichés en fait de base sont pris en compte. Alors certes ça se passe en 14-18, donc du coup on peut parler des droits des votes, du droit de vote des femmes, on peut parler de ce genre de choses, mais il me semble aujourd'hui en 2017 que même si effectivement ça a pu être un énorme souci, je dis pas du tout le contraire, on en est revenu depuis quand même plusieurs années, donc il y a d'autres vrais problèmes et combats féministes à mener que le film ne mène absolument pas. Et il ne le mène pas avec les personnages secondaires. Et il ne le mène pas avec le personnage de Wonder Woman. Wonder Woman, c'est un personnage de lettré qui est présenté... Là, je parle vraiment de la représentation dans le film. Hein. Bon, déjà, Gal Gadot, moi, personnellement, je la trouve, mais juste... Je pense que c'est une actrice qui est très sympathique. Quand tu la vois à part en train de faire la promo du film, elle a une qualité de girl next door qui est super, attachante. Et je la trouve vraiment, au naturel, vraiment attachante. Dans le film, je trouve que ça fonctionne absolument pas du tout. Et l'autre problème que j'ai avec ça, c'est qu'on te présente un personnage qui est un personnage de lettré très très cultivé, donc très intelligent, très bien, il n'y a pas de problème, et qui, dès qu'elle sort en fait de son élément, effectivement, c'est ce qu'il appelle l'effet visiteur, dès qu'elle sort de son élément, ça devient une idiote, une personne qui est confrontée, qui n'utilise absolument pas son savoir, en fait, sa connaissance des choses. Et ça devient en fait un espèce d'élément comique qui est confronté à absolument tout en fait. C'est-à-dire t'as quand même les blagues sur la quéquette du mec, ce qui est quand même un truc. Enfin, t'as envie de dire, vous faites un film féministe, vous faites des blagues sur la quéquette du héros, mais vraiment, vous en êtes là? Et que le mec il dit ouais, j'ai une grosse quéquette. Donc ça, enfin, déjà c'est le premier truc. Je suis désolé,
il dit qu'il est médium plus.
Non mais
au-dessus de la moyenne.
Non mais je suis désolé, tu comprends quand même la logique, c'est complètement absurde.
Est-ce que je peux juste te dire un truc? Je suis pas du tout d'accord avec cette avec cette relecture-là, dans le sens
mais où... Mais tu m'as pas laissé terminer.
Je veux juste revenir juste une seconde sur ce que tu as dit, parce que je suis seul à avoir un peu aimé ce film. Et c'est, je trouve, au contraire, il y a des moments assez charmants, en fait, parce qu'ils sont de l'ordre du charme. C'est le moment où ils sont sur un bateau, et je pense que cette scène a été réécrite 15 000 fois pour être sûr qu'elle soit validée, approuvée, et je pense que ça a dû être validée.
C'est la scène qui fait sa beauté tout, parce que c'est la scène qui te rappelle
non,
qu'elle a lu absolument tous les livres qui puissent exister sur Terre. En gros,
elle connaît le plaisir charnel, mais elle te dit.
Mais sans même parler du plaisir charnel, qu'elle connaît absolument tout ce qui fait partie de la culture à partir du moment où elle connaît ça.
Ouais, non, mais elle connaît le plaisir charnel, mais elle dit au mec, mais on n'a pas besoin de toi. C'est ça qui est plutôt rigolo.
Mais ça, c'est même pas vrai quand tu regardes le film.
Ah non, après, oui.
Bon, twist, voilà. Donc le truc, non, mais voilà. Donc là, à un moment donné, le problème, si tu veux, c'est que tu te retrouves dans un espèce de film qui t'explique qu'il est censé être féministe par la force des choses, parce que tu comprends quand même, on allait chercher. C'est quand même un film à 200 patates avec une femme qui réalise le film. Et tout ça, c'est des mécanismes de défense. C'est le studio qui s'est mis en avant, qui a dit, il nous faut absolument, impérativement une femme. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui réalise ce film-là. Et c'est, il y a une malhonnêteté intellectuelle pour moi là-dedans, en fait. Dans l'absolu, je serais d'accord avec tout ça si le film allait dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le film ne va pas dans ce sens-là. Effectivement, c'est malheureux qu'on n'ait pas une femme, peut-être pour contrebalancer notre point de vue, hein, typiquement, j'imagine, masculin, à cette table. Mais voilà, le problème que j'ai, moi, c'est qu'on se retrouve avec l'histoire... Enfin, on te sort l'histoire des droits des votes, on te sort la petite secrétaire rigolote grosse qui sert à rien dans le film en fait, mais qui a juste trois bons mots et encore qui sert pas, enfin encore une fois ça sert pas à grand chose. Et puis je suis désolé de spoiler hein, pour ceux qui ont pas encore vu le film, mais c'est la secrétaire du méchant en gros quoi. donc voilà, enfin c'est que des trucs comme ça en fait, c'est que du tirage de balles dans le pied. Et puis après, alors il y a ce point de vue là en fait sur le film qui moi je trouve ne fonctionne pas. Puis il y a tout simplement le point de vue en fait de faire sortir le personnage de Wonder Woman de son élément mythologique, l'intégrer dans notre monde à nous, la faire faire des choses assez incroyables, hein, c'est-à-dire elle va sauter en haut d'un clocher, défoncer un clocher entier juste pour tabasser un mec, tu vois.
C'est à partir de ce moment-là où le film devient absolument ridicule d'ailleurs.
Et cinq minutes après, t'as des mecs qui disent mais vous croyez vraiment à son histoire à cette meuf, tu vois. Enfin, et des mecs qui disent tu crois vraiment qu'elle croit en Ares, c'est complètement absurde. À un moment donné, t'écris pas ce genre de scène ou juste t'écris pas les dialogues, tu fais comme si ça n'existait pas.
Grande pauvreté au temps.
Voilà, voilà. Donc et tout le film pour moi fonctionne sur cet angle-là, et on ne va pas parler de la fin qui on en parlait avec Julien en sortant du film. Qui est probablement des reshoots à tire-larigot, parce que le méchant tel qu'il est présenté ne fonctionne absolument pas en fait. Donc voilà, je laisse la parole à Julien qui a l'air de
qui bouille.
Non, mais c'est intéressant parce que Daniel qui me semble plutôt défendre le film, le fait que tu dises qu'à partir du moment où elle expose clairement ses pouvoirs, bah le film s'effondre. Si ça, c'est pas un aveu d'échec monumental, je sais pas ce que
problème,
c'est, quoi.
Il y a vraiment un problème dans quelle est l'étendue de son pouvoir. À un moment, elle se fait érafler et donc elle saigne et ensuite elle devient limite invulnérable puisqu'elle fait du fist fight avec Dieu, enfin, avec Ares, quoi. Genre, quelle est l'étendue de ses pouvoirs? Il y a plein de choses qui ont pas été déterminées par les auteurs.
La question, c'est pourquoi, en fait, t'as un problème à ce moment-là? Moi, il y a deux choses, déjà. Je voudrais déjà revenir au ras des pâquerettes, peut-être. Parce que, il y a à l'heure qu'il est, il me semble que le film est extrêmement bien reçu, qu'il ait des critiques dithyrambiques très majoritairement.
Il commence à y avoir quelques critiques un peu plus
mitigées peut-être.
Des gens qui ont vraiment vu le film en fait.
Moi, je les ai pas encore vus.
La presse américaine est dithyrambique, mais la presse française est quand même largement plus tiède.
Sans rentrer sur le côté thématique, adaptation, toutes ces considérations là et tout, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Wonder Woman, il y a un an, je crois à peu près, on avait commencé à avoir des bruits de couloir. Comme quoi ça se passait pas bien sur le tournage, qu'il y allait y avoir beaucoup de reshoot, que les premières projections test ne s'étaient vraiment pas bien passées, etc. Et ça se sent dans le film. Il faut le rappeler, ça, déjà, aux gens qui vont payer, qui vont raquer plus de 10 euros pour aller voir le film. C'est un film qui, au niveau de sa facture pure, est imbitable. C'est dégueulasse. La DA est vraiment vilaine comme tout. Les effets spéciaux sont vraiment affreux. On en est quand même à avoir des effets d'incrustation. Regardez Chris Pine dans son avion, par exemple. C'est ignoble. C'est très, très moche, quoi.
Avant d'en arriver là, voir juste les bastons au début sur leur île, c'est pas possible.
C'est horrible.
Du Zack Snyder au ralenti.
Alors c'est du sous Zack Snyder d'ailleurs, c'est assez marrant, mais je pense que ça c'est lié en fait à la politique du studio en fait, où je pense que
Snyder a produit et coécrit.
Oui, voilà, puis c'est sa femme qui produit effectivement, et puis c'est un peu, je pense, le maître étalon sur lequel ils sont tous en train d'essayer de s'aligner Tant bien que mal, mais voilà, je pense qu'il faut déjà dire ça. Et puis ça s'étend effectivement, je trouve personnellement, sur l'interprétation. C'est-à-dire que Gal Gadot, elle a peut-être le physique de l'emploi, hein, je le nie pas. C'est vrai qu'elle a une beauté, elle est à la fois très belle, puis elle a une beauté assez atypique. Par contre, au niveau actrice, c'est une catastrophe. Elle a des, il y a des plans de réaction d'elle dans le film. Personnellement, je les ai trouvés vraiment embarrassants, quoi. Et je vous parle pas de David Tulis, ces vieux acteurs britanniques qui viennent cachetonner. Moi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, hein, David Tulis par ailleurs, mais là, il est il est juste pas possible. Et effectivement,
Danny Houston
qui est horrible. Et cette problématique en plus de la fin, où c'est pas, moi c'est pas tant que j'ai l'impression qu'ils ont retourné le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont ils l'ont grossi en fait numériquement. C'est-à-dire que le méchant, j'espère que je vais pas trop spoiler en disant ça, bon c'est un resque, hein, un méchant de Wonder Woman, le concept de base qui n'est pas inintéressant qui t'est présenté, c'est en gros le petit personnage de la Zizanie, l'album d'Astérix. Oui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne combat pas, ce que je trouve intéressant pour ce dieu de la guerre, mais qui vient et qui instaure le conflit.
Qui fout la merde.
Ce qui est intéressant, et ce qui aurait pu être intéressant à la fin, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'il passe au milieu d'une armée et qu'il monte les mecs les uns contre les autres, contre Wonder Woman, enfin j'en sais rien quoi. Non, là, tu sens que manifestement, il y a eu un retournement de situation au studio, ils se sont dit, ah non, il nous manque un gros climax dans ta face.
Vite sous le calibre.
Et ils te foutent une espèce de personnage avec une armure en CGI vraiment vilaine, hein, avec un décor absolument pas du tout identifiable. À aucun moment, je pense que c'est vraiment satisfaisant. Je pense qu'il faut le dire déjà ça aux gens, qui vont se dire, ah bah, je vais aller voir un bon blockbuster, bien dans la face et tout. Non, même pas. Vous serez incapable de sortir du film en sifflotant le thème de Wonder Woman. C'est impossible,
je peux le siffler, mais alors je le déteste.
C'est parce que tu l'as eu dans
tous les trailers.
Dans Batman v Superman.
Je pense que l'autre souci, en fait, mais qui est un souci assez commun dans ces films de super-héros aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci de positionnement de la personne, de la réalisatrice, en l'occurrence, qui fait le personnage. Je n'arrive pas à croire un seul instant que cette réalisatrice croit vraiment dans le personnage de Wonder Woman. Et du coup, elle est tout le temps obligée de prendre des expédients, des lectures de biais pour justifier sa présence dans le film. Et ça te constitue un personnage qui est totalement incohérent et qui, pareil, n'est pas du tout satisfaisant en termes d'héroïsme. Et le super-héros, c'est un personnage qui sauve les gens. S'il faut les flinguer, au pire des cas, il les flingue. En général, il essaye de pas les flinguer. Donc, tu te retrouves avec ce personnage qui, comme le rappelait Daniel tout à l'heure, est dans la guerre des tranchées. On essaye de t'instaurer que la guerre des tranchées, c'est horrible, c'est machin. Donc là, on emprunte un peu. Très bien. Moi, ça peut nourrir le drame du film. Ça aurait pu être très intéressant. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient elle-même un poilu. Elle monte au créneau et elle flingue des mecs. Personnellement, j'ai eu un vrai sentiment de malaise là-dedans. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'était une scène que je trouve très très mal filmée et pas du tout belle à regarder ou grandiose ou graphique
avec
ou quoi que ce soit.
Tirs fluo partout.
Là. Je trouve que le fait que le personnage auquel je dois m'identifier, qui est censé être une espèce de modèle ultime carrément mythologique, fasse ça, c'est épouvantable, quoi. Et en plus, elle n'est pas aidée ultérieurement par l'écriture qui est pareil, la fait passer pour une gourde, mais un nombre incalculable de fois.
Pour moi, c'est le gros problème du film. Hein. C'est-à-dire que, en gros, Daniel parlait des visiteurs et c'est exactement la référence que je sors, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que, en gros, on parlait de la logique du fish out of the water. Qui est un terme en fait pour désigner ce type de comédie en fait. Moi c'est pas l'aspect comique qui me pose problème dans le film en fait, c'est l'aspect candide du personnage. C'est-à-dire à partir du moment où tu présentes un personnage qui est censé avoir tout ce puits de connaissances, être ce puits de connaissances qui me va très bien à la base parce que c'est ça Wonder Woman. Et qui est mais d'une naïveté confondante et qui t'explique à la fin que c'est l'amour qui va sauver le monde et qu'elle l'a appris avec Chris Pine. Parce que elle a couché avec lui une fois. Enfin voilà, c'est là on en est
l'amour qui va te sauver le monde alors voilà. Qu'elle a flingué je ne sais pas combien de mecs.
Et c'est le degré zéro de la narration. Et alors le truc c'est que
juste la question c'est pourquoi il y a l'humour. Qu'est-ce qu'on aime dans l'humour en fait? Pourquoi c'est quand dans les Spider-Man de Sam Raimi l'humour fonctionne? C'est parce que ça nourrit le personnage. Là, ça nourrit pas le personnage. C'est de l'humour rajouté par les studios, je pense, pour faire ça dessert.
Ça tend à le desservir. Mais le problème.
Vas-y.
Tu voulais dire un truc.
On parlait des reshoots et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment eu un cas de réécriture. Je pense qu'ils ont eu vraiment du mal à gérer le bad buzz de Batman v Superman, qui n'avait quasiment pas d'humour, et les seules deux phrases d'humour du film, c'est peut-être les meilleurs passages, et le reste était assez ridicule. Donc du coup, tu sens que il y avait Alan Heinberg, qui est quand même un auteur de talent, hein. C'est un mec qui comprend bien ses histoires, c'est un mec qui a touché autant aux comics qu'à la comédie musicale, donc c'est vraiment un gars qui comprend bien, et il est très pédagogue en plus, ce mec-là. On l'a obligé à foutre de l'humour, et c'est de l'humour très Marvel, en fait. C'est-à-dire, c'est beaucoup de wink envers l'auditoire, c'est beaucoup de clins d'œil. À partir d'un moment, t'as l'impression de voir un film Marvel, en fait, vraiment. Et c'est à la fois entre la qualité et la faiblesse du film. C'est-à-dire que tu l'as vu, mais tu l'as oublié, quoi.
Bah, c'est-à-dire que non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la formule Marvel, c'est que au-delà de l'humour. En fait, le truc avec Marvel, c'est que leur fonctionnement, et ça fait quand même 15 films en fait qui font ça, ils vont chercher des réalisateurs qui ne sont pas des réalisateurs qui sont sevrés au blockbuster. C'est-à-dire qu'un mec comme Sam Raimi, quand il s'est lancé dans Spider-Man, bah, il avait juste 20 ans de carrière derrière lui. C'est pas un petit gars qui a rien foutu, quoi, en fait. Donc il a fait Evil Dead. Si on était venu le chercher après Evil Dead pour faire un Spider-Man, il serait planté la gueule, parce que c'est, tu passes pas de l'infiniment petit ou l'infiniment grand en termes de budget. Quelqu'un comme Patty Jenkins, elle a fait de la télé, elle a fait des choses comme ça, mais elle a fait Monster en l'occurrence.
Pendant 10 ans. Hein. Enfin,
ouais, elle a fait de la télé, elle a fait The Killing, des trucs comme ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que Marvel accompagne les réalisateurs, en bien ou en mal. Hein. Dieu sait que je déteste la formule Marvel, mais ils les accompagnent jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'y compris des moi je trouve, hein, personnellement, des guignols comme Scott Derrickson, en fait, s'en sort finalement sur Doctor Strange, parce que tout simplement, il est accompagné par tous les postes important, en fait, qui finalement lui sauve la face. Là, en l'occurrence, Patty Jenkins, personne ne lui sauve la face. C'est un film, comme l'a dit Julien, c'est personnellement, je trouve visuellement dégueulasse. Je retiens pas une scène d'action, mais c'est carrément, ça fait 5-6 jours qu'on a vu le film, j'en suis à retenir les erreurs, mais grossières à la fois de scénario et de mise en scène. Ce moment où Wonder Woman laisse son épée plantée dans le corps de quelqu'un, les gens reconnaîtront la scène, hein, je pense, parce que c'est pas possible de la louper. Et que, en fait, en gros, elle en est à chercher son épée parce que son nouvel ennemi se présente à elle, et que t'as carrément une ellipse pour la faire monter dans l'ellipse pour aller chercher son épée et revenir vers le méchant qui l'attendait en fait pour se faire bastonner la gueule. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est une erreur de débutant. Enfin, en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de tout ce que tu veux, en termes de prod, quoi. Et le truc, c'est que c'est dans le film, les gens sont morts de rire, tu vois. Et t'as quand même un film qui, d'un seul coup, passe pour le nouveau grand film de super-héros.
Alors que c'était
temps,
sans doute sa doublure lumière qui est le plus meilleur lumière de Gal Gadot qui l'a fait.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire, on s'en fout qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est juste qu'on est en train de parler d'un grand film de super-héros, ce qui n'est pas du tout le cas, même en termes de film pur. C'est même pas un grand film tout court, basta, quoi. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être sur une planète, sur une autre planète, en fait, quand je regarde un truc comme ça et que je vois la réception critique, où je me dis, en fait, donc c'est lié à un acte politique. C'est-à-dire, c'est lié à l'idée que c'est une femme qui a réalisé un grand film de super-héros, un blockbuster, en fait, et que c'est très important politiquement. Très bien si ça cartonne. Moi, j'aurais aimé que tous les gens qui défendent ça pour cette raison-là soient là quand Catherine Bigelow faisait K-19, il y a 15 ans, en fait, et que ça coûtait 100 patates avec Harrison Ford, et qu'il fallait que, on justifie, entre guillemets, auprès d'Hollywood, un film avec une réalisatrice à la barre, un blockbuster avec une réalisatrice à la barre. Pourquoi les gens n'étaient pas là? Pourquoi le critique n'était pas là pour se défendre ça? En quel nom, en fait, on décide que d'un seul coup ça c'est le féminisme et ça c'est plus le féminisme?
Bon, après, il y a un truc que je veux dire, c'est que Hollywood a changé en 15 ans quand même. Il y a eu des.
Mais Hollywood, c'est ce que tu crois. Pas sur ce point de vue-là, je suis désolé, mais Warner. Excuse-moi. Warner est allé chercher Patty Jenkins, qui n'a pas fait de film, comme tu dis, depuis 15 ans, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. À partir du moment où Catherine Bigelow dit non, il reste qui comme réalisatrice? Tu peux me citer des réalisatrices?
Non, mais j'allais dire. On en est là. C'est exactement le même chose qui est en train d'arriver avec Black Panther, où ils se sont dit, pour Black Panther, il nous faut un réalisateur noir. Et du coup, ils ont sorti leur listing.
T'as beaucoup plus de réalisateurs noirs que de réalisateurs femmes, de réalisatrices femmes. Et l'autre truc que tu pointes du doigt qui est très intéressant, c'est que ce que DC a fait en l'occurrence, et là je parle en termes d'image pure, je parle pas en termes de qualité, je parle pas en termes de voilà, c'est ils ont damné le pion à Marvel.
Ah oui, ils les ont pris de vitesse
sur Captain Marvel. Et voilà, c'est tout en fait. Et à mon avis, hein, personnellement, enfin, en tout cas, c'est la seule manière que j'arrive à m'expliquer l'engouement critique autour du film, parce que pour moi, c'est tellement nul, tu vois, que en fait, je me dis, la critique se dit, on ne peut pas déchirer ce film parce que l'enjeu politique est trop important. Et
Trop important.
et le truc, c'est que ça me fend le cœur, en fait, quelque part. Parce que du coup, tu te dis, mais non seulement, un, on ne parle pas de la qualité du film en soi, on parle de l'acte politique que le film est censé représenter, en tout cas qu'on lui accorde, parce que moi, je ne considère même pas que ce soit un acte politique que ce film doive rapporter de l'argent, en fait. Je trouve ça aberrant, en fait, qu'on en soit à se dire, ça repose sur les épaules de ce film-là, de justifier des réalisatrices derrière un gros budget. C'est pas normal. Donc le truc, c'est que...
Je pense qu'il y a un côté systémique aussi dans la réception critique.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les films d'ici se font déchirer depuis maintenant un petit moment. Enfin, il y a eu Batman vs Superman et puis après Suicide Squad. Et là, je pense qu'il y a eu une volonté plus ou moins inconsciente qui se reflète dans toute l'histoire du cinéma. Dès qu'il y a un tout petit truc un petit peu moins honteux, ce qui pour moi n'est pas le cas d'ailleurs sur Wonder Woman, mais dès qu'il y a un petit truc un tout petit peu moins honteux, peut-être on peut commencer à défendre.
Regarde, on est d'accord que si c'était arrivé après Captain Marvel, et en fait ils auraient dit bon c'est bon, ils ont juste suivi la tension. Et le truc, c'est que Captain Marvel, c'est un personnage qui est beaucoup moins important dans le roster de
d'ailleurs
de
ils savent pas trop quoi en faire. Ils savent pas s'ils vont faire les Space Corps,
ils savent qu'ils vont le faire. Le truc que je veux dire, c'est que Wonder Woman, c'est en gros, après Batman et Superman, c'est le troisième perso de DC,
c'est la trinité.
Voilà, c'est ça. Donc le truc, si tu veux, c'est que c'était un peu obligatoire de faire le personnage. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais aimé que ça soit un putain de bon film, quoi.
Y a quand même un truc qui m'a presque surpris en bien dans ce film. C'est quand même par rapport aux enjeux de DC et surtout par rapport à la manière dont ils nous bourrent le mou entre Man of Steel, Batman v Superman et même dans Suicide Squad. C'est qu'il y a très peu d'encadrement de DC-verse. Il y a très peu de. À part le book, ce qu'on appelle le bookend, c'est-à-dire le début, la première minute et la minute de fin.
Tu la comprends, la dernière minute, toi?
Et la dernière
meuf, elle se jette dans le vide pour aller sur la péniche. C'est quoi ce plan?
Il est à chier. Un bateau mouche en liberté.
mais quand même, sa base secrète est quand même dans le Louvre, ce qui a un petit côté macroniste, je trouve assez intéressant.
En plus, il y a un autre truc, c'est que t'as Wayne qui lui envoie en gros le truc en lui disant, je sais que t'es Wonder Woman. C'est en blague, sérieux?
Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit, tiens, j'ai cette photo, j'espère que tu pourras me raconter l'histoire. Et littéralement, l'histoire, c'est le film, c'est je vois cette photo et je me souviens de mon passé. Il y a rien d'autre.
C'est
un flashback.
C'est même pas connecté.
Et
c'est presque ça qui fait le à mon avis le charme, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire pas l'emmitoufler dans le monde d'ici. Et quand même, il y a un truc que, pour moi, qui fonctionne assez, c'est quand même, je trouve que, en plus d'être charmante, et j'entends charmante par le charmant éloquent du début du siècle, puisque c'est là où ça se passe, je trouve que la relation entre Steve Trevor et Wonder Woman fonctionne. Je trouve qu'il y a une espèce de jeu de séduction assez intéressant entre les deux, ce qui fait de Steve Trevor le meilleur sidekick homme. Ils ont complètement inversé les tropes du sidekick femme, et c'est bizarre que d'habitude c'est toujours un sidekick femme. C'est bizarre que le meilleur sidekick je trouve que c'est le meilleur sidekick de films de super-héros qu'on ait vu depuis très longtemps, et c'est Steve Trevor, alors que c'est un gars d'habitude.
Vous voyez Captain America, là vous aurez un bon sidekick.
Non, Bucky, femme. Non, mais tu parles de Bucky. Ah, d'accord, parce que Bucky, à bout de trois films, j'ai quand même du mal à croire en leur amitié.
Bon, alors, on a fait le tour, je pense, avant de se quitter, messieurs. On va faire comme d'habitude une poignée de recommandations. Ça peut être du super-héros, mais c'est quand même vraiment, vraiment pas obligé. Mais vous faites comme vous voulez. Stéphane, tu commences ?
Ouais, alors moi, j'ai, c'est ma femme qui m'a montré ça, en fait. C'est une petite vidéo sur Internet, c'est un essai, comme il y en a tant, en fait, maintenant sur Internet, qui s'appelle Born Sexy Yesterday, qui est intéressant parce qu'il met pas forcément sur tout le discours, en fait. C'est une petite vidéo de 20 minutes. Je suis désolé, je me rappelle plus qui elle a faite. Mais en fait, vous tapez Born Sexy Yesterday sur YouTube, vous allez tomber là-dessus. Et en fait, c'est un essai vidéo qui explique, en fait, comment certains personnages, ils se basent sur le personnage de Tron Legacy, sur le personnage de Lilou dans le cinquième élément. Et moi, j'attacherais ça à Wonder Woman, pour le coup. Comment, en fait, ces personnages sont des espèces de personnages qui sont censés être des personnages féministes, entre guillemets, et qui sont, en gros, sexistes, fondamentalement. J'aime pas utiliser ce terme-là parce que c'est trop facile au bout d'un moment. Mais le truc, c'est que c'est vrai, le personnage de Lilou dans le cinquième élan, ou le personnage de la nana dans, j'ai oublié son nom, dans Tron Legacy. Et il y a deux, trois autres persos, en fait, qu'ils utilisent. C'est des personnages qui, de Candide, en fait, qui traversent l'histoire comme ça, en ayant toutes les connaissances de combat, de machin. Et moi, j'attacherais même le Star Wars.
The Force Awakens pour ce personnage-là avec le personnage de Rey, qui savent tout faire, en fait, qui savent juste parce que c'est un pur fantasme de mec. Et la vidéo démontre ça mieux que moi, mieux que je le fais là. Bon, ça n'empêche pas de donner un peu de morale, c'est un peu moralisateur sur la fin, cette vidéo, mais c'est très intéressant, en fait, de pointer du doigt des espèces de personnages qu'on pourrait considérer comme des personnages de femmes fortes, entre guillemets.
Tu parles du syndrome de Mary Sue, en fait.
Non, c'est un peu plus spécifique que ça, parce que la Mary Sue, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, mais là, en l'occurrence, en fait, t'es dans un espèce de truc où... Enfin, oui, il y a un peu de ça, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est aussi ce que ça renvoie au mec.
D'accord.
C'est-à-dire que dans la vidéo, lui, il appelle ça « Born Sexy Yesterday okay. ». C'est son terme, hein. Mais le truc, c'est que la Mary Sue, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Là, c'est quelqu'un qui sait tout faire, mais aussi, en fait, pour valoriser la relation avec l'homme. Et je dirais pas que toute la démarche est pertinente. Mais en fait, il pointe du doigt des choses qui sont, moi, je trouve, effectivement, assez bien vues, quoi. Et dans lequel, je pense, on pourrait mettre Wonder Woman, parce que justement, en fait, quand tu parlais de la relation entre les deux personnages, ben, je trouve qu'il y a une logique de mettre un peu en valeur le personnage masculin qui a pas l'air d'y toucher, en fait, dans Wonder Woman. Ce qui fait que pour moi, c'est pas vraiment le film féministe que c'est censé être, quoi.
Exactement.
Voilà.
Mais donc, enfin, c'est peut-être pas le résultat escompté, mais c'est le résultat qu'on a, en tout cas.
Ah oui, mais ouais. Bon, c'est un problème.
Voilà. Daniel. Écoute, j'en ai assez qu'on dise toujours film de super-héros réalisé par une femme, parce que ce soit le premier, non, fuck, ce n'est pas vrai. Il y a eu d'autres films de, il y en a eu un autre en tout cas en particulier, un que j'aime particulièrement qui s'appelle Punisher Warzone, qui est réalisé par Lexi Alexander, et c'est un B-movie, Z-movie hilarant, parce que c'est à se pisser de rire, c'est un film con comme tu les aimes, avec Dominic West.
Dit-il en me regardant.
Avec Dominic West dans le rôle de Jigsaw qui est hurlé de rire, et tu sens tous les acteurs, en plus, Dominic West c'est quand même un mec qui joue très bien la comédie, et tu te demandes, il se dit, mais est-ce que j'y vais à fond? Et tu sens qu'elle lui dit, non, vas-y, complètement à fond. Et le résultat est hilarant. J'adore ce film. C'est vraiment, c'est du mauvais goût. C'est mon goût pour la série Z qui parle. Et c'est peut-être du mauvais goût. Mais désolé, je suis chez moi. Vous me demandez mon avis. Donc, Punisher Warzone, qui est réalisé par Lexi Alexander, qui était aussi une championne de karaté avant. Et,
kickboxing
et de karaté. Et du coup, elle s'est retrouvée à faire un film Marvel avant que ça devienne vraiment trendy, parce que c'est un film de 2008. Donc, le Marvel avait encore le cul entre deux chaises, donc, et Marvel fait comme si ce film n'existait pas. Mais pourtant.
Ils ont un gros problème avec Punisher. Hein.
Ouais, oui, parce que Punisher,
en général,
c'est vraiment l'anti-héros atypique. Mais si des gens sont arrivés avec Wolverine, pourquoi pas Punisher? En tout cas, je recommande vraiment chaudement Punisher Warzone. Vous allez peut-être détester, mais alors putain, qu'est-ce qu'on se marre.
Au moins, c'était une femme d'action, quoi.
Ouais, enfin, si je peux me permettre juste un truc pour préciser, c'est ce que tu dis, c'est vrai, et en même temps, on va encore plus loin, c'est que le problème que j'ai, moi, encore une fois, avec Wonder Woman, c'est que on dit, c'est pas seulement que c'est un premier film réalisé par une femme, mais c'est aussi le premier film de super-héros féminin. Et là, tu te dis, attends, vous avez oublié Catwoman, bon, délibérément, apparemment, les mecs, tu vois, et Supergirl, quoi.
Et Elektra.
Donc, on parle de ça. Elektra, bien sûr, merci. Donc, le truc, c'est qu'en fait, au nom, et là je parle des journalistes, hein, je parle même bien pas de la prod, au nom de les journalistes, au nom du féminisme, en fait, disent en gros, bah, tout ça n'a pas existé auparavant, et ça y est, enfin un personnage de femme forte au cinéma.
Oui, et on
incroyable.
on oublie Lexi Alexander, ce qui est un scandale.
Voilà. C'est un scandale.
Bah, moi, je parlais aussi d'un autre film de super-héros réalisé par une femme, du coup. Ce qui m'agace un petit peu, moi, c'est l'excuse en disant, ah là là, mais Wonder Woman, c'est super compliqué, c'est super dur et tout. Je suis désolé, non, c'est pas plus compliqué que Superman. Hein. C'est plus compliqué que Batman, ça, c'est clair et net, quoi.
Elle a une genèse assez compliquée, quand même.
Tu veux en parler avec Zack Snyder, quand même, parce que bon, c'est compliqué.
Non, mais voilà. Et alors, c'est une reco en demi-teinte, parce que c'est pas un film parfait, loin de là. C'est le Wonder Woman que DC avait produit en 2009, qui est sorti directement en vidéo, qui est un film d'animation produit par Bruce Timm, qui est le grand Manitou des Batman des années 90, qui ont contribué à redéfinir, à mon sens, le personnage.
C'est une animated series,
voilà, qui était formidable. Alors, il y a des choses à garder, il y a des choses à acheter, mais il y a des choses. Je trouve que revoir ce Wonder Woman après avoir vu ce nouveau blockbuster te remet un peu les idées en place, te fait dire que t'as pas besoin d'utiliser des excuses pour présenter certaines choses. Que notamment, il y a un truc qui est super intéressant dans Wonder Woman et qui n'est pas du tout exploité ou pas du tout suffisamment en tout cas dans ce blockbuster, c'est le choc entre notre monde et la mythologie antique qui est à mon sens au cœur de la mythologie des super-héros et encore plus de la mythologie d'ici. Il y a des problèmes dans ce Wonder Woman de 2009, notamment sur le vaisseau invisible, enfin son avion invisible qui est là pour le coup un peu compliqué.
On a vu que dans Batman v Superman, elle prend des vols de ligne puisqu'elle prend Turkish Airways.
Donc je sais pas, je sais pas s'ils le font,
ce qui est scandaleux.
Mais il y a des choses.
Il y a pas de logo sur l'avion.
Il y a des choses intéressantes dans son rapport aux dieux, dans son rapport aux Amazones, dans pourquoi elle quitte aussi les Amazones, sur son rapport à la mer aussi sur l'île. Voilà, il y a des. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à sauver. Ça contribue à remettre un petit peu les idées en place.
Très bien. Eh bien, c'est noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris au public pour l'accueil. Mais il y a pas de public. Pourquoi je dis ça? Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nociné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast, à lui laisser une bonne note. Si ce n'est pas déjà fait, on vous le rendra bien, c'est promis. Je profite également de cette fin d'émission pour saluer l'un de nos joyeux contributeurs, Fabien Drujon, qui, comme bon nombre d'entre vous, a participé au succès de notre campagne de financement sur Ulule. Merci à toi, Fabien, et à vous tous, on dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fans.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.